Est-ce que ça veut dire qu'il y a des promesses que Dieu a faites à Israël de façon géographique, de façon ethnique, de façon sociale qui n'existent plus? Non. Les promesses que Dieu a faites spécifiquement de manière géographique, de manière politique, de manière ethnique, qu'il a faites à Israël en particulier, vont se réaliser à Israël en particulier. Mais ils vont se réaliser justement lorsque Israël va se convertir à Jésus-Christ. Parce que Dieu maintenant a créé une nouvelle entité, une nouvelle humanité, un nouvel homme, l'Église. Il nous a rapprochés par le sang de Christ. Il nous a unis, il a fait quelque chose de nouveau. Et la Bible a dit aussi dans le texte des versets 16 à 18 qu'il nous a réconciliés et il nous a placés en paix avec Dieu et en paix les uns envers les autres, avec les autres. Par la croix, Jésus il a annoncé et il a restauré l'accès, la paix. Le texte dit « Il est notre paix », verset 17. « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, la paix à ceux qui sont prêts. » Christ est venu annoncer la paix, il est venu procurer la paix, l'accès à Dieu, l'harmonie entre Dieu et les hommes et l'harmonie entre les hommes. La Bible elle mentionne qu'à la croix du calvaire, Dieu est venu rencontrer l'homme pécheur. Alors, au calvaire, on avait Jésus. Jésus qui était un sacrificateur pour offrir un sacrifice. Lequel sacrifice il offrait? Sa propre vie. Sur quel autel il le faisait? Au calvaire. L'autel était le propitiatoire, le lieu de rencontre d'un Dieu juste avec un homme, avec l'être humain pécheur. Et ils se rencontrent sur le propitiatoire. Dans l'Ancien Testament, c'était un couvert sur lequel on versait le sang. Mais Jésus est ce propitiatoire. Il rend propice, il apaise la colère de Dieu parce qu'il satisfait toute sa justice. Il est la propitiation pour nos péchés. Et par conséquent, nous sommes, par le sang de Jésus, par son sacrifice à la croix, nous sommes réconciliés avec Dieu. Mais aussi, cette paix que nous découvrons avec Dieu, elle s'étend de façon horizontale aussi parmi les autres croyants, parmi les autres personnes. Et par la croix de Christ, Dieu nous appelle à la réconciliation, la paix entre les hommes, entre eux. Combien de personnes ont vu le film « L'enfant de la paix » en anglais, ça s'appelait « A Peace Child ». Ça fait plusieurs années, peut-être 30 ans de ça, peut-être notre coffre, ça fait plusieurs années que j'en... Mais ce sont des missionnaires d'une école théologique de Saskatchewan, je ne me souviens plus du nom, laquelle en particulier, mais ils ont envoyé des missionnaires dans des tribus indigènes. Et les missionnaires qui ont été dans cette tribu-là étaient en face de deux tribus qui s'en voulaient à mort, évidemment. Il y en avait qui étaient cannibales face à l'autre. Les deux tribus s'en voulaient à mort. Et les missionnaires sont venus chez une tribu. Ils ont partagé l'Évangile. Et la tribu s'est convertie. Le chef de la tribu s'est converti avec sa tribu. Et là, étant réconcilié avec Dieu... Dieu les appelait à être réconciliés avec les autres. Mais comment aller voir l'autre tribu? Ils s'haïssaient à mort. Le chef a découvert une solution. Il a pris son propre fils et il a été voir l'autre chef et il lui a offert son propre fils. De sorte que pour établir la paix. Et ainsi, par son fils, dans l'autre peuple, il y avait le gage de la paix. Je t'en voudrais pas, je t'attaquerai pas, je te ferai pas de mal. Pourquoi est-ce que l'autre chef avait la certitude que le peuple voisin lui ferait pas de mal? Il y avait l'enfant de la paix. La Bible a dit, il est notre paix. Il est notre paix avec Dieu. Mais Jésus aussi, il est notre paix les uns envers les autres. Et l'autre peuplade a cru à l'Évangile. Parce que le message de ce chef indigène pour l'autre était le même que le message de l'Évangile. Et voilà l'enfant de la paix. L'enfant qui donne paix, le fils qui donne paix envers Dieu, mais qui procure la paix aussi, qui procure la réconciliation entre les hommes. Et finalement, cette réconciliation et cette paix doit nous amener à la collaboration harmonieuse dans le projet que Dieu nous donne, qui est l'Église. Alors l'Église, c'est pas juste des individus qui sont en paix avec Dieu, mais l'Église, ce sont aussi une communauté dont Christ est le lien de paix qui les unit. Et cette communauté-là, à ce moment-là, elle a la responsabilité de vivre dans l'harmonie, dans l'unité les uns envers les autres, de construire ce que Paul va dire plus tard, l'habitation de Dieu en esprit. Quel est ce projet auquel Dieu nous appelle? Il nous dit dans le verset 19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. » Par conséquent, Dieu vous appelle. Il y a des conséquences pratiques à être attaché à la famille de Dieu. Vous n'êtes plus des étrangers. Par conséquent, vous devez développer un fort sentiment d'appartenance les uns aux autres. Vous n'êtes plus des étrangers. Vous n'êtes plus des gens du dehors. Mais vous êtes des gens de la maison de Dieu. Vous êtes des gens de la famille de Dieu. Et qu'est-ce qu'on s'attend avec une famille, sinon que de créer des liens, de créer de l'harmonie, de se connaître? Dieu nous appelle à former, à développer un fort sentiment d'appartenance les uns envers les autres. On est maintenant des concitoyens d'un nouvel ordre mondial, l'Église, la famille de Dieu. On n'est plus des étrangers. Et le texte dit non seulement on doit développer de forts sentiments les uns envers les autres, mais on doit construire ensemble le plus beau temple jamais imaginé. Et dit au verset 20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Vous êtes en train de construire un temple. Vous êtes édifiés. Et il dit au verset 21, il dit, « En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. » Dieu veut qu'on construise à ensemble. Le temple de Dieu, maintenant, il n'est pas fait de pierre. Il est fait de pierre vivante. Dieu a placé des chrétiens ensemble pour qu'ils participent à l'édification, à la coordination d'un nouveau temple. Chaque chrétien, depuis les 20 derniers siècles, construise un temple nouveau par l'harmonisation qu'ils ont entre les deux. Ils ont tous le même fondement, ils ont tous la même pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. Ils ont tous le même fondement des prophètes et des apôtres de l'Église primitive du premier siècle. Et par-dessus ça, depuis 20 siècles, on est en train d'édifier, de construire la plus grande cathédrale qu'il n'y a pas au monde. Et Dieu voulant, la plus belle, la plus ouverte, la plus accueillante à travers le monde. Vous devez être édifié pour être un temple saint dans le Seigneur. Et parce que c'est l'Église maintenant qui manifeste la présence et l'activité du Christ rédempteur dans le monde. On est là pour construire un beau temple. Et pourquoi qu'on construit un temple? Ben, c'est pour communier avec Dieu. C'est pour adorer Dieu. En lui, verset 22, vous avez été aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. L'Église universelle, dans sa collectivité, est le lieu de la résidence permanente de Dieu. Où est-ce que Dieu habite? Est-ce que Dieu habite au ciel? Le texte, il me dit que vous êtes une habitation de Dieu en esprit. Vous êtes nous sommes, en tant que communauté chrétienne, en tant qu'Église, la résidence permanente de Dieu. Christ en est la tête. Christ en est la pierre angulaire de ce temple formé par des personnes habitées de l'Esprit, plutôt que d'être un temple fait de main d'homme. L'Église est le temple saint, dans le verset 21. Il y a deux mots pour temple dans le grec. Un, c'est hieros, l'autre, c'est naos. Le hieros, c'est le grand sanctuaire, c'est le gros temple, le gros morceau. Mais le naos, c'est le lieu très saint, c'est le lieu particulier où réside Dieu. Et le mot qui est employé ici, c'est justement naos. Vous êtes le naos, vous êtes le lieu très saint où Dieu habite, où Dieu réside parmi son peuple. Voyez-vous, quand au Moyen Âge, les architectes ont commencé à penser à l'Église, ils ont voulu placer dans le bâtiment une image de l'Église des personnes. Alors, ils se sont assurés d'avoir grand, des cathédrales. Il n'y avait pas juste de la place pour 3-4 personnes. Pas plus que juste 300-400 personnes. C'était grand. C'était ouvert. C'était accueillant. Il y avait de la lumière qui rentrait. Vous devriez suivre un cours avec Rebecca sur l'architecture des grandes cathédrales au Moyen-Âge, le sens chrétien qu'il y avait derrière ça. Mais il voulait être simplement un reflet de l'Église vraie, de l'Église qui est visible dans la société, de l'Église qui est ouverte, de l'Église qui est accueillante. Et la beauté de l'Église dépend alors de la valeur des personnes qui la composent, du caractère de ceux qui la constituent. Paul, dans le premier chapitre, il nous a parlé des bénédictions que l'on a reçues. Vous êtes content d'avoir été racheté. Vous êtes content d'être habité par l'Esprit de Dieu. Vous êtes content d'avoir reçu l'héritage, d'avoir été élu, d'avoir été prédestiné à l'image de Jésus-Christ. C'est toutes des belles bénédictions individuelles. Mais Paul, il va prier après ça que l'on accepte ça, puis qu'on les vive. Et dans le chapitre 2, il va dire, ça se vit d'abord de façon individuelle. Vous avez été sauvés, vous étiez morts, et vous êtes rendus à la vie de façon individuelle. Mais il continue dans le texte qu'on vient de voir, de dire, ça ne s'arrête pas là, par exemple. La beauté du plan de Dieu pour nous, c'est l'Église locale, c'est l'Église universelle qui se manifeste dans l'Église locale. Afin qu'on puisse vivre et dire, ah, quel bonheur d'être en famille. Est-ce que vous ressentez ça dans la famille de Dieu? De dire, quel bonheur d'être en famille. Avant, on était éloignés, étrangers de Dieu. Maintenant, on est devenus des proches. On est devenus familiers de Dieu. Qu'est-ce que ça devrait changer dans ma vie, dans nos vies, ça? Je pense que ça devrait nous appeler à vivre d'abord en paix, dans la paix de Christ, parce qu'il est notre paix. Il est ma paix au sein des douleurs, au sein des conflits. La Bible a dit que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs pour que vous puissiez justement, parce que vous avez été appelés à former un seul corps, et Christ est la paix. Que Christ, que sa paix règne dans vos cœurs. Le texte nous appelle aussi à nous accueillir. On était rapprochés l'un de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut s'accueillir les uns les autres. Le sang de Christ nous a rapprochés. Il nous a fait partie de la grande famille de Dieu. Et maintenant, par exemple, j'ai le privilège d'accueillir l'autre, de lui dire, de le connaître. C'est la première chose. Si Dieu nous a rapprochés juste dans un même bâtiment pour adorer ensemble le dimanche matin, ce serait-tu extrême d'apprendre à se connaître les uns les autres? Comme si vous invitiez votre famille à manger autour de la table puis que vous qu'il y ait deux personnes assises dans le fond que vous ne connaissez pas puis dit « on va continuer à manger, nous nos affaires, puis on va laisser les personnes. » Ça a-tu du sens dans une petite famille? Ça a-tu plus de sens dans une église locale? Dites-moi, est-ce que vous connaissez vraiment pas mal tout le monde qui sont ici? Ou si vous pouvez dire, oh boy, je suis certain qu'il y a peut-être 25% des personnes que je ne connais pas. De toute façon, ils ne sont jamais venus me voir. On est appelé à former l'Église. On est appelé à s'accueillir les uns les autres. Avoir une redevabilité mutuelle, de contribuer à l'accueil de chacun dans notre Église locale. Quel accueil est-ce que je fais à l'autre dans l'Église? Quel rapport familial est-ce que j'ai avec mes frères et mes sœurs dans l'Église? On est appelé à vivre dans la paix de Christ. On est appelé à accueillir l'autre et on est appelé à construire l'Église. Et Dieu soupire après notre contribution individuelle à la coopération dans l'Église, à la communion, à construire ce que je t'ai mentionné, une cathédrale visible, ouverte, accueillante. Et l'Église est toujours un édifice qui est en chantier. Ce n'est pas un édifice qui est complété, qui est déjà beau. Les gens doivent voir que c'est un endroit où on peut vivre ensemble pour construire, pour bâtir quelque chose d'honorable aux yeux de Dieu. La Bible dit qu'on doit construire sur ce fondement-là avec des pierres précieuses, avec de l'or, plutôt qu'avec du matériel cheap. du bois de la chaume de la paille. Alors, je dois me poser la question, quel est alors mon attachement à l'église locale? Quel est mon attachement à la communauté chrétienne? Quelle est mon appréciation? Quelle est ma participation à l'édification de l'église locale? Oh, que ce texte-là, ce matin, nous interpelle quant à notre appartenance, notre sentiment d'appartenance, de solidarité dans la communauté chrétienne. Que ça puisse nous interpeller à notre engagement les uns vers les autres, qui va nous donner un gage de fierté, de sécurité aussi d'être l'un avec les autres et pour la gloire de Christ. Et dans quelques instants, on va partager la table du Seigneur. Et la Bible me dit que la table du Seigneur est le moment privilégié. Justement pour se remettre en question, non seulement face à ma relation personnelle avec Dieu, mais à ma relation les uns envers les autres et ma contribution à la paix, à l'harmonie, à la croissance de l'Église locale. Oh Seigneur Dieu, merci. J'étais perdu, tu m'as sauvé. J'étais orphelin, tu m'as donné une famille, la famille de Dieu. Et Seigneur, tu nous appelles ensemble à construire un temple saint pour le Seigneur. Parce qu'en réalité, c'est ta demeure, c'est ta résidence permanente. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Ô Seigneur, je veux te prier que dans chacun de nos cœurs, nous puissions développer ce sentiment d'appartenance et cette fierté de construire l'Église locale, de construire ton Église, soumise à notre chef, Jésus-Christ, qui est le fondement, soumis aux principes de ta parole qui nous ont été présentés par les prophètes et les apôtres du premier siècle. Alors, Seigneur, merci pour ton Église. Qu'elle soit dans chacun de nos cœurs l'objet de notre joie. Qu'on puisse dire qu'il fait bon d'être en famille et qu'on puisse construire ensemble, Seigneur, une communauté qui te ressemble et qui te reflète. Et nous te prions ces choses au nom de Jésus. Amen.